Peut-être un point de départ, hein, puisque l'objet de l'atelier, c'est le managérialisme. Alors, on s'entend sur la question de qu'est-ce que c'est que le managérialisme, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le définis, hein, c'est une croyance en la valeur des gestionnaires professionnels, de leurs outils et de leurs méthodes. Hein, donc, on est dans quelque chose qui est une croyance et on peut l'élargir en disant par exemple que l'État ou les associations basculent dans le managérialisme à partir du moment où elles reprennent les outils qui sont liés aux professionnels de la gestion, à l'utilisation de leurs outils et de leurs méthodes. Alors, moi je vais parler exclusivement d'un outil en particulier qui s'appelle la méthodologie de projet. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là me semble ultra dominant. Je pourrais expliquer pourquoi. Moi, je vais vous parler essentiellement de deux secteurs d'activité qu'on pourrait regrouper en un seul, qui sont le travail social et le secteur de l'éducation populaire, qu'on pourrait regrouper dans un seul, puisqu'il n'y a que pratiquement en France où on sépare de manière aussi abrupte l'éducation populaire et le travail social. Au Canada, par exemple, au Brésil, ces deux secteurs sont mélangés. Donc moi je vais vous parler essentiellement de cet élément-là. Je vais vous embrosser un tableau qui va être un enfer, c'est-à-dire que je vais vous décrire de manière très claire ce qu'est que l'enfer de la méthodologie de projet. Donc vous comprendrez dès le départ que je suis contre l'utilisation de cet outil dans le travail social. Je vais argumenter pourquoi. Ce sera parfois un peu caricatural, donc la nuance viendra après dans la construction des échanges avec vous. Voilà, mais je vais essayer de l'appuyer avec quelques exemples pour bien comprendre. De quoi on parlait. Et puis ensuite, Quentin apportera d'autres outils qui sont parfois un peu connexes ou autour ou dérivés de cette méthodologie de projet, mais il parlera d'autres éléments. Et dans ma présentation, je donnerai quelques éléments quand même pour sortir de l'enfer de la méthodologie de projet. Est-ce que si je parle de méthodologie de projet, tout le monde sait de quoi je parle? Diagnostic, objectif, moyen, évaluation et on recommence. Ça parle à tout le monde, ça. Normalement, toute personne qui est passée par une formation du travail social, par Sciences Po, par une université de sciences humaines a appris ça. Voilà. Hein, normalement.
Moi, j'ai fait du droit.
Eh ben voilà. donc, je vais reprendre, je vais expliquer, hein, comment on en est arrivé là. La méthodologie de projet, hein, c'est un outil de gestion qui permet, au tout départ, et ça a été inventé pour ça, qui permet aux gestionnaires de savoir combien va coûter un objet avant de l'avoir construit. C'est ça l'objet. C'est-à-dire que le gestionnaire va mettre en place une méthodologie qui va lui permettre de savoir à quel moment et qu'est-ce qui va coûter, et donc de savoir combien de temps il va mettre pour développer le produit, et donc savoir à quel prix il va vendre ce produit. C'est ça l'objet. Les gens qui ont travaillé dans un premier temps sur ça sont les gens qui ont mis en place le travail à la chaîne. Taylor, Stakhanov, enfin voilà, ça vous replongera dans mon cours d'économie de seconde ou de première. Mais c'est ces gens-là qui ont travaillé sur la méthodologie de projet. Les tout premiers à avoir mis en place ça, celui qui l'a développé dans un premier temps de manière un peu empirique et puis qui va ensuite l'approfondir de manière un peu plus précise, c'est notamment Henry Ford, puisqu'il a une idée de base, hein, qui est de se dire que, et on présente ça comme une révolution et comme une idée absolument géniale d'un capitalisme moral, qui est que un ouvrier doit être en capacité d'acheter l'objet qu'il produit. Hein. C'est-à-dire qu'on dit de Ford qu'il travaillait pour que ses ouvriers puissent acheter la voiture qu'il venait de fabriquer. Cette idée-là est en fait une idée particulièrement révolutionnaire, alors pas forcément dans le sens positif du terme, mais c'est une idée révolutionnaire puisque antérieurement, les gens fabriquaient, mais n'achetaient pas ce qu'ils fabriquaient. L'ébéniste qui fabrique des meubles n'achetait pas les propres meubles qu'il fabriquait. Là, l'ouvrier qui fabrique des voitures achète la voiture qu'il fabrique. Et donc, il faut qu'il puisse la vendre à ses ouvriers. Donc, il faut qu'il puisse, avant de la fabriquer, savoir combien elle va coûter. Donc, on est dans un outil de gestion industrielle et économique. Ça, c'est l'idée. Et donc, pour faire ça, il va découper en tronçons, en tranches, les éléments. C'est-à-dire, il va regarder ce dont il a besoin. Donc, ce dont il a besoin, ça va être des pièces, des outils, des machines, des gens, des lieux, etc., etc. Il va se fixer un objectif, donc fabriquer une Ford T à moins de je ne sais plus combien de dollars. Et ensuite, il va le décliner avec toute une série d'éléments. Il va phaser, il va faire de la programmation. et il va phaser la fabrication de la voiture, donc la chaîne va rentrer en jeu, et il va pouvoir dire « je vais la vendre à tel prix ». Ça, c'est comme ça que ça naît. Jusque dans les années, grosso modo, 50, ça restera un outil exclusif de l'industrie et de l'industrie capitaliste. Les premières personnes qui vont s'intéresser à ce dispositif pour en faire autre chose qu'un outil de l'industrie sont des chercheurs qui vont travailler sur les logiques de construction collective. Alors, il y en a un que j'aime tout particulièrement parce que c'est celui qui va faire le passage entre l'industrie et notamment le secteur de l'animation socioculturelle, c'est Kurt Lewin. Alors, Kurt Lewin, K-U-R-T, Lewin, L-E-W-I-N. Et Kurt Lewin, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait ses premières études sur... Il va observer comment les enfants jouent ensemble, de manière coopérative, dans un centre de loisirs américain. Ses premières études, c'est de la psychologie sociale. Il observe et donc il produit un certain nombre de travaux sur l'entraide entre les enfants. Il va faire la même expérience avec un de ses copains qui s'appelle Bavlas, dont j'ai oublié le prénom. Et il va faire la même chose sur les équipes qui vont travailler dans ce même centre de loisirs pour savoir comment les gens vont travailler ensemble. Et donc il va faire là aussi apprendre et décrire un certain nombre de fonctionnements sur la coopération, sur le travail coopératif. Et donc Bavlas et Lewin vont faire ça et ensuite vont être recrutés par le MIT et ils vont travailler non plus sur le co-travail et la coopération dans les équipes et entre enfants, ils vont travailler au service de l'industrie, puisque le MIT est une université de technologie et qui est tournée vers l'entreprise. Et donc, les travaux de Lewin vont toujours être dans cette zone de psychologie sociale et ils vont être réimportés en Europe sur toute une série de dynamiques de groupe. Et la question de la dynamique de groupe, c'est des travaux qu'on va retrouver de manière extrêmement massive dans tout le courant des pédagogies à partir des années 60-70. Si vous ouvrez un livre de pédagogie des années 60-70 sur la question du centre de loisirs, des jeux, etc., vous verrez toujours citer Kurt Lewin. Parce que c'est notamment lui qui va faire les cours de dynamique de groupe, etc. etc. C'est tout ce travail-là. L'Europe va reprendre ces travaux-là et va ajouter de la psychanalyse, comme souvent l'Europe. Et c'est à ce moment-là KS, dont j'ai encore une fois oublié le prénom, qui va reprendre ces travaux-là. Donc, la méthodologie de projet, elle arrive en Europe dans les sciences sociales, tout particulièrement dans les volets formation, dans les années 70. Ça veut dire qu'avant les années 70, les centres de loisirs, qui s'appelaient patronage, les colos, le travail social, ne travaillaient pas en méthodologie de projet. Or, aujourd'hui, vous posez la question à un travailleur social, il vous répond systématiquement méthodologie de projet. Il est incapable d'imaginer qu'on peut travailler sans. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne aujourd'hui un outil qui devient ultra dominant à partir des années 80. Il y a un article de Jean-Marie Bataille qui reprend le nombre d'occurrences où le terme méthodologie de projet apparaît dans les intitulés de thèse du travail social. Sur le thèse.fr, qui est le corpus de l'ensemble des thèses françaises. Et il y avait dans les années 60 deux thèses, et dans les années 80, on est à plus de 500 thèses qui parlent de ce sujet-là. Donc c'est vraiment exponentiel. Donc aujourd'hui, la méthodologie de projet, elle est stabilisée. On a toujours au départ un diagnostic. Donc le diagnostic, c'est savoir de qui on parle, de où on parle, de quels sont les territoires sur lesquels on travaille, en fonction de ce qu'on a à faire dans le travail social ou dans l'animation. On travaille sur des gens, on travaille sur des territoires, on travaille sur des lieux, on fait un diagnostic de cet état-là. Donc, on regarde en chiffres, on prend des travaux de sociologie sur les publics, on prend des travaux de géographie sur le territoire dans lequel on se situe, sur des statistiques, etc. On regarde, on fait une revue de littérature, la littérature scientifique. On regarde, on fait un point sur les savoirs théoriques qu'on peut avoir, sur les valeurs qu'on va défendre, et ça s'appelle un diagnostic. Et aujourd'hui, vous avez des formations entières, dans les formations pro, où le seul métier, c'est de réaliser un diagnostic. Vous remarquerez un élément majeur, c'est que le terme diagnostic, c'est le même que celui des médecins. Donc on fait un diagnostic pour savoir de quoi la personne ou le lieu est malade. OK ? Donc de ce diagnostic, normalement, on décline une problématique, qui est le terme un peu poli pour dire, en fait, on dit quels sont les problèmes des gens. Et ensuite, on va définir des objectifs qui vont répondre à la problématique. C'est-à-dire que les objectifs sont les réponses qu'on va mettre en place pour diminuer les problèmes des gens ou réduire la problématique à pas grand-chose. Et ensuite, on décline en moyens, c'est-à-dire comment on fait, etc., On met en place des critères et des indicateurs d'évaluation. Et puis, on recommence. Normalement, quand on a fait ça, la problématique est réduite ou c'est améliorée. Les gens vont mieux, normalement, ou le territoire va mieux. Okay ? Il y a une notion qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de projet sans temps. Donc, on décrit un projet avec un temps donné. Et ensuite, dans cet outil de gestion-là, on peut regarder de manière un peu plus approfondie les différentes étapes. Les travailleurs sociaux, les gens qui vont intervenir pour faire effectivement la réalisation de ce projet, c'est une petite case dans les moyens, ce qu'on appelle les moyens humains. Ils sont ni dans les objectifs, ni dans la problématique, ni dans le diagnostic. Ils sont dans les moyens humains. Au même titre qu'il y a des moyens financiers, des moyens matériels, etc. C'est-à-dire que les gens sont réduits au même niveau qu'une table, une chaise et un crayon. Les gens qui travaillent. Dans cette grande méthodologie de projet, on va regarder encore, on va travailler avec des publics. C'est dans le diagnostic. On va faire un diagnostic et on va travailler sur des publics. Et on va, à partir de la revue de littérature, d'entretien, de diagnostic, on va définir quels sont les publics. Et donc, ou un territoire, par exemple, ce qu'on connaît sur le zonage ou le zoning géographique. C'est-à-dire qu'on définit des zones sur lesquelles on travaille. Parfois, par exemple, si on prend le zonage de la politique de la ville, un côté de rue pair est dedans, le côté impair n'est pas dedans. Et on ne travaille que sur la zone qui est définie. Alors, c'est là où on se rend bien compte que la méthodologie de projet est bien un outil qui permet de faire de la gestion directe. Ce que veut savoir la personne, le financeur, parce que c'est lui qui le définit, le financeur, quand il demande ces projets-là, ce qu'il veut savoir, c'est combien ça coûte. Donc, il a tout intérêt à définir un public petit, une zone petite ou réduite, qui fait qu'on ne va plus jamais parler d'une politique publique à l'échelle d'une population globale. On va parler et on va regarder dans cette population, on va définir à l'intérieur de ça un certain nombre de publics particuliers. Si je prends un exemple, une politique qui s'appelle toujours les VVV, les opérations ville-ville-vacances, qui est une petite politique publique qui perdure depuis la marche pour l'égalité du début des années 80, qui est l'idée qu'on va débloquer de l'argent pour permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances de partir en vacances pendant les périodes d'été. Ça permettait de faire que les banlieues ne s'excitent pas trop pendant l'été. C'était ça l'objectif de cette politique publique. Et bien, quand on regarde aujourd'hui les VVV, où il n'y a pas beaucoup d'argent, objectivement, on y met des objectifs précis avec des populations cibles. Et cycliquement, on y voit réapparaître, par exemple, que l'une des populations cibles, c'est les jeunes femmes, aujourd'hui. Pendant 30 ans, les jeunes femmes n'étaient pas du tout ciblées. Il n'y avait rien de précisé. Mais comme ils faisaient que du foot, des mini-motos, etc., en fait, il n'y avait que des mecs qui y allaient. Et donc maintenant, ils ciblent uniquement sur les jeunes femmes. Donc ils disent qu'il y a un budget spécifique pour les jeunes femmes. Voilà. Et donc, c'est des jeunes femmes et qui sont issues d'un territoire politique de la ville. Okay. Donc par exemple, quand moi je travaille dans un centre social et que je voulais mettre en place un séjour de vacances où l'ensemble du quartier pouvait partir avec des gens pour se rencontrer, des copains, copines, etc., ils pouvaient partir, parce qu'on était financés par les VV, ne pouvaient partir dans le camp que les gens qui étaient issus du quartier politique de la ville. Pas les gens qui n'étaient pas dans le quartier politique de la ville, ou à défaut, ils devaient payer 6 fois plus cher. Donc au final, ils ne partaient pas. Donc on voit bien que cette politique, elle induit finalement un entre-soi. Ce que ça produit, c'est que ça produit la méthodologie de projet, elle produit un entre-soi qui fait que ne part qu'un certain nombre de personnes. Et comme le financeur ne veut pas payer pour des gens qui ont de l'argent, et ben en fait, par exemple, sur un projet comme celui-là, les mixités sont impossibles. Il fallait être une fille dans un territoire politique de la ville. Donc si on était un garçon, le petit frère, la petite sœur ou la copine qui voulait partir, c'était pas possible, sauf à payer 4 fois plus cher. Donc ça c'est un des premiers effets de la méthodologie de projet, c'est qu'on découpe l'ensemble de la politique publique en tranches, où on cherche en fait à savoir quel est le coût et l'effet de cette affaire-là. L'autre élément qui rentre en jeu, c'est dans toute cette méthodologie-là, à part dans le diagnostic au départ, où on va interroger les personnes concernées n'apparaissent très peu. C'est une technocratie hyper huilée, où les gens concernés apparaissent peu. Alors, il y a des gens qui les réinjectent un peu dans le diagnostic, un peu dedans, on va travailler avec, mais c'est toujours du un peu d'eux. Et l'objet est devenu tellement puissant que tout est projet. Alors, dans le travail social, vous allez trouver des projets de tout et de rien. Le projet éducatif, le projet d'établissement, le projet d'accueil individualisé, le projet pédagogique, le projet social du centre social, etc. Et puis, par exemple, quand vous allez faire du travail social plus individualisé, vous allez avoir des projets sur les personnes. Donc, on va demander à des gens en situation de pauvreté ou de précarité de se définir un projet. Les centres sociaux mettent en place des projets de vacances, par exemple. On demande des projets de vacances à des gens qui sont en situation de pauvreté. Donc on demande à des gens en situation de pauvreté de définir des objectifs et des moyens du raison pour lequel ils veulent partir en vacances. Autant vous dire que s'ils étaient riches, jamais personne ne leur demanderait un projet de vacances. Quand je travaillais en protection de l'enfance, on demandait à des jeunes qui étaient placés dans des foyers en accueil d'urgence quels étaient leurs projets à l'entrée du foyer d'accueil d'urgence. Le gamin, moi j'en ai accompagné un jour, il a répondu à l'éduc, je veux rentrer chez moi. Ce qui est quand même un objectif quand même relativement correct pour tout enfant de la protection de l'enfance. Mais, et donc, il faut impérativement que même les gens en situation de pauvreté, aujourd'hui, déclinent en objectifs et en moyens ce qu'ils vont mettre en place, avec une durée, etc. Ça, c'est pas pour les gens. C'est pour le financeur. Le financeur, il veut savoir, quand une personne rentre à Pôle emploi, au CCAS pour demander une aide, etc., ce qu'il veut savoir, c'est combien de temps cette personne va être à charge, combien elle va coûter à la société. Et donc, on lui demande un projet. On demande la même chose à l'entrée en master, on demande la même chose dans les lettres de motivation qu'on met dans Parcoursup. On vous demande ça partout, partout, partout. Dès qu'il va y avoir un financement, on va vous demander ça. Si on ne vous êtes en capacité de payer par vous-même, on ne vous demandera jamais.
Pour l'entrée dans les structures en insertion.
L'insertion, c'est vraiment le... On fait des entretiens, on fait des accompagnements pendant 3, 4, 5 entretiens pour que les gens écrivent des projets d'insertion, leurs propres projets d'insertion. S'ils n'ont pas ça, ils ne rentrent pas. Mais à Pôle emploi, de plus en plus aussi, hein, on demande qu'il y ait des projets qui soient écrits, etc. Donc ça c'est vraiment Alors, là où ça devient absolument infernal, hein, c'est que donc tout ça existe en permanence, c'est que c'est devenu l'objet de financement public, hein, notamment par les appels à projets, tiens donc. Où effectivement on demande aux associations de rédiger des projets, etc. Mais c'est la même chose. L'association, elle répond à un appel à projet, où elle décline en objectifs et en moyens ce qu'elle va mettre en place. Si elle ne le met pas en place, elle n'aura pas l'argent convenu. Ça permet de mettre les associations en concurrence, puisque ça permet, sur une idée générale avec un montant global, ça permet aux financeurs de choisir l'association qui sera la moins chère, etc. C'est-à-dire que tout ça devient un outil... complet, c'est une espèce de tautologie, hein, on est complètement dans le managérialisme, c'est-à-dire qu'on croit complètement que cette forme-là va permettre de résoudre tous les problèmes. Et moi, je fais partie d'une génération où on m'a appris, comme travailleur social, que c'est dans le projet qu'on lisait le sens. Ben non, il n'y a pas de sens dans le projet, c'est pas vrai. Il y a bien 2-3 bribes dans les diagnostics qui permettent de dire voilà ce que je vais faire, quelles sont mes valeurs, etc. Mais c'est pas là-dessus que ça se joue. Le sens, il n'est pas dans le projet. Moi, on m'a appris, et pourtant, la personne qui m'a appris ça était plutôt un type charmant, formé à la pédagogie freinée, donc on ne peut pas faire le reproche à cette personnalité-là d'être néolibéral à fond les ballons, mais il n'empêche qu'il nous a appris l'obligation de faire ça, que c'était absolument nécessaire, etc. etc. Et donc, le sens, il n'est pas là. Le sens de notre action, il est dans notre capacité à agir. Moi, je dis que le sens de l'action, il est dans la manière qu'on a d'être en relation avec l'autre. C'est-à-dire qu'on appelle la pédagogie. C'est-à-dire la capacité qu'on a entre ce qu'on dit, ce qu'on sait, ce qu'on pense et ce qu'on fait, qui a une cohérence et qui fait que quand on dit « je crois en toi », mon comportement montre à la personne que je crois effectivement en elle, etc. Donc, ce rapport-là, cette manière de faire dans le travail social, cette cohérence entre le dire et le faire, C'est ça le meilleur outil qui permet de briser en fait une partie de ce mécanisme technocratisé qu'est la méthodologie de projet. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut définir des finalités philosophiques, il faut les décliner en outils ensuite concrets, c'est-à-dire le rapport humain, etc., pour pouvoir à un moment donné contrer les dynamiques qui sont liées à la méthodologie de projet. Mais on ne travaille jamais avec des personnes en situation de vulnérabilité sur leurs problèmes, sur leurs problématiques. On travaille avec les personnes. Ce n'est pas à nous de définir les problèmes des gens, c'est à construire avec les personnes. Et ça se travaille dans une rencontre. Donc le préalable à tout travail social, et ça c'est pas écrire un projet le préalable c'est d'abord de rencontrer les gens. Sans jugement et avec. Et là, on retrouve en partie ce que faisait John Dewey dans les années 1920-1930 aux États-Unis, pédagogue, philosophe, homme politique, etc., etc., qui ont travaillé sur d'abord la rencontre avec les personnes et ensuite de les accompagner vers la réalisation d'un certain nombre d'éléments qui leur sont à eux propres, choisis, etc., etc. Mais en aucun cas, la structuration qui découle et qui fait que le diagnostic, la problématique, les objectifs, etc., sont l'élément central de ça. La conséquence de l'entrée dans la méthodologie de projet comme outil absolument unique utilisé, c'est que, comme c'est la même méthode qui est utilisée dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc., etc., aujourd'hui, le travail social est managé par des gens qui sortent des écoles de commerce. Mais comme on croit en la méthodologie de projet, en sa capacité, en ses outils gestionnaires, en fait, les gestionnaires sont rois. Donc la question, elle n'est pas, j'ai envie de dire, presque de déboulonner ces gens-là, elle est que les travailleurs sociaux se réapproprient dans leur capacité à faire des méthodes, des outils, des moyens qui sont ceux du travail social. Donc la rencontre, travailler avec, être à côté, pas juger, prendre le temps. Voilà, je m'arrête là pour pas faire trop long. Je pense que j'ai déjà fait trop long.